VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, édition du jeudi 27 janvier 2022. Jean-Roger Billon à ce micro, bonsoir à tous. À la une de nos informations. La junte au pouvoir au Burkina Faso a poursuivi aujourd'hui ses consultations. Après les anciens ministres hier, elle a reçu aujourd'hui les syndicats à la veille de la réunion de la CDAO. Les relations se dégradent entre le Mali et la France. Le porte-parole de la junte à Bamako a sommé la ministre française des armées Florence Parly de se taire. Au Mali, le président nomme un gouvernement partiel après le limogeage surprise lundi de tous les ministres. Crise ukrainienne, Kiev salue les discussions constructives de Paris et Moscou accueille froidement la réponse écrite de Washington. Cannes 2021 au Cameroun, Emmanuel Jelentap nous rejoint dans un instant en ouverture dans le journal des sports. Les 8 équipes qualifiées pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations entre en scène samedi et dimanche prochain. En prélude à ces matchs, la Confédération africaine de football a opéré quelques changements sur les pistes devant abriter ces rencontres. Des précisions et autres informations dans le journal de la CAN avec Emmanuel Jelentap depuis Yaoundé.
Bonsoir. 3 stades sont homologués pour abriter les matchs des quarts de finale. Le stade Roumdé Adja de Garoua pour la rencontre Burkina Faso-Tunisie, le stade de Japoma pour le match Gambie Cameroun et le stade Omnisport Amadou Ahidjo qui va accueillir 2 rencontres dimanche, le choc Égypte-Maroc suivi de Sénégal-Guinée équatoriale. Des changements opérés par la commission d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de la CAF pour des raisons sécuritaires. Le stade d'Olembe à Yaoundé étant suspendu jusqu'à ce que le comité local d'organisation de la CAN produise un rapport sur les incidents mortels de lundi dernier. L'autre raison qui justifie le changement des sites pour les quarts de finale est relative à la dégradation de la pelouse du stade de Japoma à Douala qui va finalement abriter un seul quart de finale au lieu de 2 comme initialement prévu. Toujours en dehors des stades, la Fédération malienne de football a protesté ce jeudi contre la VAR, dont les décisions lors du match des 8e de finale d'hier entre le Mali et la Guinée équatoriale paraissent, citation, trop suspectes. Le secrétaire général adjoint de la Fédération malienne de football, dans une correspondance adressée au président de la commission d'organisation de la CAN, a protesté contre le fait que la VAR a annulé un pénalty accordé au Mali par l'arbitre, mais n'a pas signalé une main flagrante et visible du joueur équato-guinéen dans la surface de réparation. Le Mali dit néanmoins accepter sa défaite avec fair play, peut-on lire dans la correspondance. Hier, justement, le Mali et la Côte d'Ivoire sont sortis de la compétition, battus respectivement lors de la séance des tirs au but par la Guinée équatoriale et l'Égypte. Jules Valentin Ngoué nous attend à Libreville pour le coup de sifflet du jour.
Ce sont deux niveaux de jeu diamétralement opposés que nous ont offert les deux dernières affiches des huitièmes de finale hier, avec en première heure un sommet digne d'une finale avant la lettre entre l'Égypte et la Côte d'Ivoire. Au regard de l'opposition proposée, on s'attendait à une production relevée entre les deux anciens champions d'Afrique, et ce fut le cas. D'entrée de jeu, les éléphants ont donné le ton de la rencontre en étalant tout l'éventail de leur qualité offensive, orchestrée par une attaque mitrailleuse composée de joueurs majeurs qui fondait par vagues incessantes sur la défense égyptienne, multipliant des occasions de but. L'Égypte a eu le mérite de retrouver sa qualité collective, se payant même le luxe de souffrir par des incursions dangereuses les occasions de but les plus franches. En fin de compte, un 0-0 positif qui fatalement élimine sur un coup de dé une équipe séduisante, celle de Côte d'Ivoire, même si nous retrouvons au bon moment l'Égypte comme on l'aime. Il fallait bien qu'un grand tombe. Le match de la deuxième heure a été tout le contraire du premier, tant l'opposition entre le Mali et la Guinée équatoriale a été d'un niveau technique médiocre, avec des Guinéens particulièrement accrocheurs, ce qui a empêché les Maliens de développer un jeu collectif cohérent, rendant la partie décousue jusqu'à la séance fatidique des tirs au but qui récompense une courageuse équipe du Nzaran national, à nouveau en quart de finale après 2012 et 2015 sur 3 participations. À bientôt.
Le match qui s'annonce le plus relevé des quarts de finale est celui qui met aux prises les pharaons d'Égypte au lion de l'Atlas. En 4 matchs disputés, la ligne d'attaque du Maroc n'a pas encore démontré tout le bien qu'on pense d'elle. Le coach Vahid du Maroc apporte les explications à cet effet.
Notre 3 meilleurs attaquants, Youssef et Ayoub, et surtout Ryan Maillet, ils ont été tous blessés, il revient de blessures, il était malade, il avait Covid, ils sont pas au top de forme. Et bah, il faut regarder, j'espère qu'ils vont bientôt retrouver son niveau. J'attends de très bientôt à top, surtout Ryan Maillet, parce que c'est un garçon qui a un grand talent et qui va apporter beaucoup à notre équipe.
Un rappel, voici les pays qualifiés pour les quarts de finale. L'Afrique du Nord et de l'Ouest sont représentés par 6 équipes, l'Égypte, le Maroc, la Tunisie, le Sénégal, la Gambie et le Burkina Faso. Le Cameroun et la Guinée équatoriale sont les 2 représentants de l'Afrique centrale. Le journal de la CAN s'achève. Emmanuel Jultap, VOA Afrique.
À présent, la suite du journal. Au Burkina Faso, la junte au pouvoir s'est concertée aujourd'hui avec des dirigeants syndicaux à la veille d'un sommet de la CEDEAO prévu demain et qui pourrait imposer des sanctions au pays. Les détails avec Nani Talani.
Une 20aine de dirigeants syndicaux ont rencontré pendant environ une demi-heure la junte dirigée par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sondaogo Damiba au siège de la présidence à Ouagadougou. Damiba nous a rassuré que nous serons consultés et inclus dans ce qui sera mis en place. Maintenant, nous attendons de voir ce qui se passe sur le terrain, a déclaré Marcel Zinté, qui dirige une coordination de 130 syndicats. Plusieurs organisations de la société civile avaient auparavant écrit dans un communiqué qu'elles restaient attachées à l'état de droit et aux valeurs démocratiques. Les militaires au pouvoir ont rencontré hier les ministres de l'ancien gouvernement et leur ont demandé de ne pas quitter le pays sans autorisation. Ces consultations interviennent à la veille d'un sommet virtuel des chefs d'État de la CEDEAO qui a fermement condamné ce dernier coup d'État dans la région. L'organisation régionale devrait suspendre le Burkina Faso de ses instances et probablement imposer des sanctions aux poutistes, comme elle a fait auparavant pour le Mali et la Guinée.
Au Mali, un haut responsable de la junte au pouvoir a conseillé à la ministre française des Armées de se taire. Florence Parly avait accusé les dirigeants de Bamako de multiplier les provocations. Mohamedou Mfa nous en dit plus.
Mercredi soir, le colonel Abdoulaye Maïga, ministre et porte-parole du gouvernement de transition, a accusé Florence Parly et la France de chercher à diviser les Maliens, d'instrumentaliser les organisations sous-régionales et de conserver ses réflexes coloniaux. Nous invitons également Madame Parly à plus de retenue et à respecter le principe élémentaire de non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État, a dit le colonel Maïga. Lorsqu'on tente désespérément d'isoler le Mali en instrumentalisant les organisations sous-régionales, on se demande enfin qui est dans la provocation, a-t-il dit en évoquant les sanctions de la CEDEAO. Nous l'invitons également, c'est un conseil, à faire sienne cette phrase d'Alfred de Vigny sur la grandeur du silence, a-t-il ajouté. Cette sortie a eu lieu en pleine dégradation des relations entre Bamako et Paris et une montée d'un sentiment anti-français dans plusieurs pays de la région.
Le Danemark a décidé de retirer sa 100aine de soldats du Mali après que le gouvernement de transition a à nouveau exigé leur départ, a annoncé jeudi le chef de la diplomatie du pays scandinave. Les généraux au pouvoir ont envoyé un message clair où ils ont réaffirmé que le Danemark n'est pas le bienvenu au Mali. Nous ne l'acceptons pas et pour cette raison, nous avons décidé de rapatrier nos soldats, a déclaré le ministre des Affaires étrangères, Jeb Kofod, après une réunion au Parlement. Le gouvernement sénégalais a prévenu journalistes ou internautes à la suite de pertes et disparitions de soldats qu'il s'exposait à des sanctions en publiant des informations portant atteinte à la défense nationale. Cette mise en garde diffusée mercredi soir par le ministère des Forces armées était mise peu après la mort en début de semaine de 2 soldats et la disparition de 9 autres à la suite d'un accrochage avec des rebelles présumés en Gambie, voisine du Sénégal. Le gouvernement sénégalais ne dit pas ce qui a justifié son communiqué. L'ouverture du dialogue national inclusif promis par la junte militaire au Tchad avec l'opposition, la société civile et les différentes rébellions est repoussée du 15 février au 10 mai, a annoncé aujourd'hui la présidence sur sa page Facebook. Un pré-dialogue avec les nombreux groupes rebelles armés a également été repoussé au 27 février à Doha au Qatar, où il devait initialement se tenir avant la fin janvier pour tenter de les faire participer au dialogue, selon un haut responsable du comité d'organisation. Au Malawi, le président Lazarus Chakwera a nommé dans la nuit dernière un gouvernement partiel après le limogeage surprise lundi de l'ensemble de ses 33 ministres. L'une des promesses de campagne du président Chakwera était la lutte contre la corruption. Claire Morin-Jibou.
Lazarus Chakwera a choisi deux nouveaux alliés. Sam Kawale, un fidèle de son parti, le MCP, et le puissant homme d'affaires et membre d'un parti allié, Marc Katsonga-Firi. 10 anciens ministres ont été reconduits dans le nouveau gouvernement, pour l'instant composé de 12 membres. Le chef de l'État doit encore désigner les ministres aux finances, l'intérieur et aux affaires étrangères. Le président malawite avait annoncé lundi de façon inattendue la dissolution de son gouvernement suite aux pressions menées par la conférence épiscopale et le comité des affaires publiques qui jouent un rôle de surveillance du gouvernement. Ils avaient exprimé leurs inquiétudes quant aux hésitations du président dans la lutte contre la corruption. Soupçonné d'avoir perçu des pots de vin, le ministre des Terres a été arrêté fin décembre. Monsieur Chakwera a remporté la présidentielle de 2020 en faisant campagne contre la corruption.
3 membres des forces de sécurité en Libye ont été tués dans une attaque menée par des hommes affiliés au groupe État islamique dans le sud-ouest du pays, a annoncé aujourd'hui le ministère de l'Intérieur. L'attaque a eu lieu mercredi à 80 km de la ville d'Al-Gatroun, à 700 km au sud de la capitale Tripoli, et a visé une patrouille de la brigade des martyrs Doum al-Araneb, faisant 3 martyrs parmi ses membres, a indiqué le gouvernement dans un communiqué.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Joe Biden recevra le chancelier allemand Olaf Scholz le 7 février à la Maison-Blanche, a annoncé aujourd'hui la porte-parole de la Maison-Blanche, Jen Psaki. Les deux dirigeants évoqueront en particulier leur engagement commun à poursuivre la voie diplomatique, ainsi qu'à joindre leurs efforts pour dissuader la Russie de toute agression contre l'Ukraine, a-t-elle précisé dans un communiqué. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a qualifié de constructif les pourparlers d'hier à Paris des représentants de Kiev et Moscou sous la médiation franco-allemande. Il a souhaité la tenue dans les plus brefs délais d'un sommet des chefs d'État des 4 pays. Nathalie Barge.
Volodymyr Zelensky juge positivement la tenue de cette réunion, son caractère constructif ainsi que la volonté de poursuivre des négociations substantielles dans 2 semaines à Berlin, a déclaré la présidence dans un communiqué. La première priorité, c'est d'aboutir à un cessez-le-feu stable et inconditionnel dans le Donbass, région dans l'est de l'Ukraine, partiellement contrôlée par les séparatistes pro-russes, a fait valoir M. Zelensky. La Russie nie toute intention belliqueuse et réclame la fin de la politique d'élargissement de l'Alliance Atlantique et en retour de ses déploiements militaires sur les frontières de 1997. Des demandes rejetées hier par les États-Unis et l'OTAN. L'Ukraine a déclaré n'avoir aucune objection vis-à-vis de la réponse américaine aux exigences sécuritaires de Moscou, tout en signifiant qu'aucune décision sur l'Ukraine ne pouvait être prise sans l'Ukraine.
Moscou a froidement accueilli aujourd'hui le rejet américain de ses exigences sécuritaires, un échange qui alimente la crise russo-occidentale sur l'Ukraine, mais les deux camps ont gardé ouverte la porte du dialogue. Le chef de la diplomatie, Sergueï Lavrov, a notamment relevé qu'on peut espérer le début d'une conversation sérieuse sur des questions secondaires. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a indiqué mercredi avoir proposé une voie diplomatique sérieuse à Moscou en vue d'une désescalade. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au Burkina Faso, l'ancien parti au pouvoir, le MPP, Mouvement du Peuple pour le Progrès, dit avoir eu des nouvelles du président Roch Kabore, renversé par la junte dirigée par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Joint par Yacouba Ouédraogo, Lassina Ouattara, secrétaire à l'information et à la communication du MPP, affirme que le parti attend de connaître les motivations de la junte, mais souhaite un retour prochain à l'ordre constitutionnel.
Depuis hier, on a en tout cas confirmation qu'il est bien là, il est vivant, il se porte bien. Il est donc en résidence surveillée par les autorités nouvellement établies.
Quelqu'un du parti a pu lui parler?
Non, pas directement. Franchement, c'est vraiment par personne interposée que nous avons eu confirmation de ce que je viens de vous dire.
Est-ce que la junte vous a approché?
Pas jusqu'à présent. Moi, je viens de quitter le premier vice-président. On avait les mêmes informations. Donc, pour l'instant, on a seulement appris qu'hier, ils ont rencontré les anciens ministres du dernier gouvernement pour leur donner des lignes de conduite à suivre. Et puis, aujourd'hui, Samedi, c'était avec les syndicats. Peut-être le tour des partis politiques viendra, mais pour l'instant, nous n'avons pas été saisis.
Pendant longtemps, il y a des mouvements et des partis politiques qui ont demandé la démission de Roch face à l'insécurité galopante au Burkina Faso.
Oui.
Est-ce que vous dites qu'on a perdu le pouvoir de notre faute?
En tout cas, on a fait ce qu'on pouvait, mais honnêtement, vous savez que toute œuvre humaine est perfectible, donc c'est sûr que des failles, des manquements, nous en avons eu, donc a posteriori, qu'on peut en tout cas examiner. Il y avait déjà assez de remous, surtout chaque fois que sur le front sécuritaire, on accusait des coups, des pertes en vie humaine. Et donc, on sentait quand même que notre pouvoir vacillait.
Comment compte s'organiser ou se réorganiser le MPP?
Le MPP est toujours là, c'est vrai, sonné aux premières heures, mais on a réduit nos esprits. Hier, nous avons tenu notre première réunion de bureau exécutif pour analyser la situation froidement. En tout cas, notre volonté en tant qu'acteur politique de la scène nationale d'exister et de continuer donc à exercer et surtout à impulser de notre vision, et ça, cette détermination, elle est intacte.
Qu'est-ce que vous attendez de la junte au pouvoir?
Nous sommes des démocrates, nous voulons très vite que notre pays, ce pays revienne donc à une gestion démocratique, à remettre en tout cas l'ordre constitutionnel en place, parce que bon, c'est dans ça qu'il y a plus donc de sécurité, c'est dans ça qu'on peut mieux organiser la dévolution du pouvoir. Il n'est pas concevable qu'on pense que le Burkina pourrait en tout cas rester dans un cycle de coup d'État. De toute façon, le Burkina a l'expérience de ça, ça nous a amené nulle part. Donc nous souhaitons que effectivement, tout de suite, il s'inscrit vraiment dans un processus qui va ramener en tout cas l'ordre démocratique au Burkina Faso.
Au cas où vous êtes appelé à participer à des instances de transition, serez-vous prêt à le faire?
Nous attendons d'abord de voir vraiment quel est l'agenda clair donc des autorités militaires qui sont là aujourd'hui et quelles sont leurs visions vraiment en fonction de l'offre qu'ils vont nous présenter. Donc les instances de notre parti se prononceront.
Lassina Ouattara, secrétaire à l'information et à la communication du MPP, joint à Ouagadougou. La junte qui s'est emparée du pouvoir à Ouagadougou n'a pas encore précisé ses intentions sur la gouvernance du pays. Dans une interview exclusive accordée à Henry Wilkins de la VOA dans la capitale burkinabé, Sandra Clark, l'ambassadrice des États-Unis au Burkina Faso, a averti que si l'armée installe son propre chef au pouvoir, Washington pourrait couper son soutien au Burkina Faso. Le récit est de Nani Talani.
Dans cette interview exclusive, Sandra Clark, la représentante américaine à Ouagadougou, affirme que les États-Unis surveillent de près la situation.
Nous évaluons les événements sur le terrain pour déterminer tout impact sur notre assistance. C'est une situation très fluide et les choses évoluent. Je tiens à souligner que la loi américaine exige un examen et une éventuelle suspension de l'aide dans les cas où un gouvernement démocratique est renversé par des moyens anticonstitutionnels.
La junte n'a pas encore annoncé si elle prévoit d'installer un militaire ou un civil comme nouveau dirigeant. Si un civil est sélectionné, cela pourrait signifier une poursuite du soutien des États-Unis qui fournissent une formation antiterroriste aux troupes burkinabées et un financement. Selon elle, Washington aimerait voir le régime démocratique rétabli.
Nous avons appelé à la libération immédiate du président Kabore et d'autres responsables gouvernementaux et au retour à un gouvernement dirigé par des civils et à l'ordre constitutionnel. Et nous exhortons toutes les parties à rester calmes et à rechercher le dialogue.
Le Burkina Faso est confronté depuis 6 ans à des attaques des groupes djihadistes armés. Ces derniers mois, l'armée a subi une série de revers face à ces groupes. La France dispose aussi d'une unité de forces spéciales dans le pays et fournit un soutien aérien et du renseignement à l'armée burkinabée. Au lendemain du putsch, plus de 1000 personnes ont assisté à une manifestation de soutien aux militaires mardi à Ouagadougou. Certains manifestants ont appelé au soutien militaire russe comme au Mali voisin. Alexander Ivanov, le représentant officiel des formateurs militaires russes en République centrafricaine, a publié mardi un communiqué proposant une formation aux militaires burkinabés. VOA a demandé à l'analyste Andrew Lebovitch du Conseil européen des relations étrangères pourquoi le soutien à l'intervention russe augmente.
Alors que le sentiment anti-français augmente, que le scepticisme augmente et que les gens sont devenus préoccupés et frustrés par la situation sécuritaire, le blâme est tombé, injustement ou non, sur les partenaires traditionnels et sur les partenaires actuels.
Pour le moment, rien n'a été dit sur l'endroit où se trouve l'ancien président Marc-Christian Kabore, que l'armée a arrêté lundi.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Au Mali, les militaires au pouvoir se heurtent à la communauté internationale pour savoir quand organiser des élections pour amener les civils au pouvoir. La France a retiré une partie de ses troupes. Le gouvernement européen envisage de retirer également leurs troupes participant à l'opération Takuba, suite au recrutement éventuel de formateurs russes par Bamako. Comment ces tensions peuvent-elles affecter la sécurité au Mali? Le point depuis Bamako avec Annie Risenberg de la VOA, le récit est de Claire Morin-Gibourg.
Depuis les sanctions de la CEDEAO, la junte au pouvoir au Mali a adopté une position plus ferme. Cette semaine, le Mali a ordonné à un contingent danois récemment arrivé dans le cadre de la force européenne Takuba de quitter le pays. Le gouvernement a également accusé la France d'avoir violé l'espace aérien malien. Bamako a reconnu un certain degré de coopération avec des formateurs russes, mais nie toute coopération avec le groupe Wagner, une agence privée paramilitaire russe. Ornella Moderane est la responsable du programme Sahel à l'Institut d'études de sécurité de Bamako.
Tout cela n'a pas permis de stabiliser ou d'améliorer la situation. Au contraire, on assiste d'année en année à une aggravation du contexte sécuritaire. On a de plus en plus d'incidents violents et toujours énormément de victimes.
Ali Tunkara, le directeur du Centre d'études sécuritaires et stratégiques au Sahel, à Bamako, affirme que sans les années d'intervention militaire, la situation actuelle pourrait être pire.
Je vois mal une fédération de la Russie donner des milliards pour des projets de réduction des tensions communautaires, notamment comment ramener tous ces jeunes qui avaient regagné le groupe radicaux violent, de reprendre la vie sociale.
Alioune Tine dirige le centre Africa Jom, un groupe de réflexion sur les questions de sécurité et droits de l'homme basé à Dakar au Sénégal.
Seulement maintenant, il faut réfléchir, après quand même des années d'intervention militaire, si effectivement la seule façon d'intervenir ou de répondre aux questions sécuritaires au Mali, c'est l'armée. Je pense que de ce point de vue-là, vraiment la réponse est non.
Pour Alioune Tine, il est essentiel que les solutions face à l'insécurité au Mali impliquent les jeunes et les femmes en particulier. Ces solutions doivent également se concentrer sur les questions de développement, pas seulement avoir plus d'armes et de forces militaires. Restez avec nous à Bamako au Mali sur le 102 FM, CVO Afrique, 24h sur 24.
Le président américain Joe Biden va pouvoir nommer un juge à la Cour suprême après l'annonce du progressiste Stephen Breyer qu'il va quitter ses fonctions d'ici l'été. Le locataire de la Maison-Blanche avait promis, lors de la campagne pour la présidentielle de 2020, de choisir une femme noire au sein de l'institution, ce qui serait une première. Pour en parler, Abdourahman Dia a joint ici à Washington Marilyn Sefok. Elle est professeure de langue à Howard University.
Alors, avec les juges de la Cour suprême, on ne peut pas toujours savoir s'il s'agit de pression ou pas. En tout cas, il semblerait que l'heure soit venue pour lui de prendre sa retraite, et c'est donc ce qu'il a fait.
Cela ne change pas quand même l'équilibre à la Cour suprême, avec toujours 6 conservateurs contre 3 progressistes. Mais pourquoi cette possibilité pour le président Joe Biden de nommer un juge est important?
Alors ça, c'est extrêmement important parce que quand un parti obtient cette possibilité, il s'agit vraiment de s'engouffrer là-dedans. Sinon, le prochain président ou alors le président de d'autres partis à l'avenir aura justement cet avantage.
Alors, on peut parler donc de course contre la montre avant les élections de mi-mandat prévues en novembre. Le juge Breyer sera encore là jusqu'au mois de juin au moins.
Oui, alors c'est peut-être perçu comme une course contre la montre, mais il faut tout de même savoir qu'il est très important pour les progressistes d'avoir en place un juge.
Alors justement, le président Biden, lors de la campagne électorale, avait promis de nommer la première femme noire africaine-américaine à la Cour suprême. Et la Maison-Blanche a encore confirmé qu'il reste sur cette promesse. En quoi c'est important pour les États-Unis d'avoir la première femme africaine-américaine à la Cour suprême, si ça se confirme?
Si ça se confirme, ce serait une chose absolument positive, très importante, parce que les femmes noires américaines ont joué un rôle extrêmement important pour ce qui est de la justice dans ce pays. Elles sont d'abord en première ligne, parce que quand la justice n'est pas donnée dans la communauté noire, eh bien ce sont elles surtout qui se battent pour que justice soit faite. On pense par exemple à la mère de Emmett Till, par exemple. On pense à toutes ces femmes noires américaines qui ont dû se battre dans des situations où leurs proches, qu'il s'agisse de leur fils ou de leur mari, ont été ou assassinés ou tués par la police, par exemple. Donc les femmes noires sont à l'avant-garde, si vous voulez, quand il s'agit de se battre pour obtenir la justice.
C'était l'universitaire Marilyn Sefok.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live, en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA.
Comme vous l'avez dit sur les réseaux sociaux, l'enfant humble, un artiste de Ouagadougou, pour nous parler de sa musique et de sa carrière, bien sûr en général. Mais bien sûr, il va nous rejoindre au téléphone et n'y quittez surtout pas parce que vous allez beaucoup adorer sa musique, un rappeur pas comme les autres.
Le monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro. Un grand merci à toute la rédaction et à notre équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.